avoir reçu quelques annonces de son père, vous trouverez le scutum fidei du 20 octobre à décembre sur la petite table, la grande table ici, et puis quelques livres, en particulier une édition d'un premier tome des écrits de Mgr Williamson, Kyrie Eleison. Il y aura plusieurs tomes, mais déjà un tome a été sorti récemment. C'est une mine d'enseignement pour nos temps calamiteux qui dénonçait si bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, on rapporte dans la vie de saint Thomas d'Aquin qu'un jour, avec un frère, lui était prêtre, le frère n'était pas prêtre, et le frère dominicain lui pose la question alors qu'ils arrivaient à Paris. Ils voyaient sur la colline toute la ville de Paris au XIIIe siècle. Et le frère dit à Thomas, « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Voudriez-vous avoir en possession Paris ?» Et saint Thomas d'Aquin a répondu, « Bon, Paris ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresserait, le trésor le plus important que je voudrais avoir, c'est un livre, les commentaires de saint Jean Chrysostome sur saint Matthieu. » Eh bien, chers frères, nous allons découvrir ce matin un petit peu saint Jean Chrysostome qui commente saint Matthieu. Donc, saint Thomas d'Aquin avait grande estime pour saint Jean Chrysostome et saint Matthieu encore plus. Mais saint Jean Chrysostome a bien compris la Sainte Écriture et avec finesse, avec la foi qui était celle des pères de l'Église, ils allaient au fond des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, saint Jean Chrysostome a commenté l'évangile de saint Matthieu. Et pour ce qui nous occupe ce matin, je vais vous lire quelques passages, car c'est les saints autrefois, les pères de l'Église, ne faisaient pas des petits sermons de 5 à 10 minutes, mais c'était pratiquement parfois une heure. Donc nos sermons ne sont pas grand-chose à côté. Si parfois on trouve que les sermons des prêtres sont longs, ceux des pères de l'Église étaient largement plus longs. Même on raconte qu'une fois, saint Jean Chrysostome, tant son sermon était long que quelqu'un s'est endormi, alors il l'a réveillé. Et même saint Paul, lors d'un sermon, on voit ça dans les Actes des Apôtres ou dans une épître, eh bien quelqu'un s'était endormi, et comme ça se passait à l'étage, la personne était sur le bord de la fenêtre, était tombée dans la rue. Donc saint Paul a dû s'arrêter et a réveillé, c'est-à-dire il a ressuscité le mort, et ensuite a continué son sermon. Donc vous voyez comment nos anciens prêchaient. Je ferai en principe plus court ce matin. Mais c'est merveilleux la façon dont saint Jean Chrysostome commente cet évangile. Et la phrase qui nous retient, c'est pas dans saint Matthieu, mais c'est à la fin de ce sermon de saint Jean Chrysostome. Il reprend une phrase d'admiration et de même d'un grand discernement de saint Jean Baptiste au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ qui disait « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui dans cette résurrection, non pas, oui, résurrection morale, spirituelle, où notre Seigneur Jésus-Christ va pardonner les péchés du paralytique, puis, comme preuve de son pouvoir sur le corps et l'âme, il va ressusciter aussi, il va donner la vie des jambes à ce paralytique. Ainsi, ce paralytique est présenté à Jésus. En saint Matthieu, dit saint Jean Chrysostome, il n'est pas question de tous les détails que donnent d'autres évangélistes, en particulier, je crois, saint Luc, qui dit ceci, qu'on a monté le paralytique sur le toit de la maison et on a enlevé les tuiles, la paille, etc. On a fait un trou dans le toit de la maison pour faire descendre le paralytique. Imaginez le propriétaire qui a vu sa maison dégradée en peu de temps. Bon, l'évangile ne le dit pas, mais ça laisse à penser. Imaginez. On peut imaginer tout à fait ces détails que l'évangéliste ne dit pas, mais on est suffisamment imaginatif pour voir le tableau. Et saint Matthieu ne dit pas cela. Il n'en parle pas de ces détails. En tout cas, il dit ceci, qu'il y a une grande confiance du paralytique qui s'est fait porter avec non seulement lui, mais le grabat, parce qu'il est question du grabat. À la fin de ce miracle, notre Seigneur dira au paralytique, « Lève-toi et prends ton grabat et va chez toi. » Donc il n'est pas question de laisser en plan le grabat. Donc il y avait tout. Fait d'attirail, voyez-vous. Donc le trou qui a été fait n'est pas un trou de souris. C'est un trou important pour un homme et son grabat. Et en plus, je pense que les porteurs ont été très délicats. Ils n'ont pas voulu que le malade s'abîme davantage. Donc ils ont percé large, si vous voulez. Autant dire que le toit, il est quasi inexistant. Mais c'est un détail. En tout cas, la foi, la confiance du paralytique qui se fait emporter dans des circonstances difficiles. Et ça, c'est très important. Pour accéder au bienfait de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la confiance, l'espérance d'un bien supérieur à celui qu'on possède. Parce que le paralytique, il ne possédait pas grand-chose, puisqu'il était très infirme. Il ne peut pas marcher, il se laisse emporter. Donc il est soumis à beaucoup de circonstances qui le dépassent. Sans aide extérieure, il ne peut rien faire, il ne peut pas se déplacer. Donc la confiance dans les porteurs qui montent sur le toit et qui vont dégrader le toit et qui, avec délicatesse, vont le poser à terre, au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. La maison était pleine. C'est pour ça que on passe pas par la porte. La porte est obstruée. Autrement, il est évident que on serait passé par la porte, mais il n'y a plus d'accès. Le seul accès, c'est un accès de toit. Dans cette circonstance, dit saint Jean Chrysostome, Jésus, voyant la foi aussi de ceux qui portaient le paralytique, donc la confiance du paralytique et la foi des porteurs, notre paralytique avait en Jésus-Christ la plus grande confiance, dit notre saint. Autrement, eût-il permis qu'on le descendît au pied de Jésus ? Jésus répondra par l'éclat d'une si grande foi, par le plus éclatant prodige. Avec l'autorité de Dieu, il efface les péchés de cet homme pour mieux établir son égalité avec son Père. Vérité qu'il avait déjà établie par des prodiges précédemment opérés. Sur le lépreux à qui il avait dit « Je le veux, sois guéri !» Ou encore, par rapport au centurion qui avait dit à Jésus-Christ, dans un langage de foi, « Dites un mot seulement, et mon serviteur sera guéri !» Notre Seigneur Jésus-Christ vient aussi de marcher sur les eaux. Il a toute puissance sur n'importe quel élément. Il chasse les démons. Eh bien, dans cette circonstance délicate de ce paralytique, notre Seigneur Jésus-Christ va forcer ses adversaires, les scribes, qui sont bien présents et qui vont juger notre Seigneur Jésus-Christ, il force ses adversaires à reconnaître cette égalité avec son Père. Il leur en arrachera le témoignage par leurs propres paroles intérieures, puisqu'ils ne parlent pas extérieurement, ils pensent en eux-mêmes. Mais Jésus-Christ qui sonde, comme dit la Sainte Écriture, qui sonde les reins et les cœurs, voit leurs pensées. Et qui va dévoiler cette pensée, on va le voir tout à l'heure. Donc cette foule, ramassée, aura pressé, environné la maison et même enfermé l'entrée. Et Jésus ne se hâta point d'opérer un miracle manifeste, en guérissant la paralysie extérieure. Il attendit que ses ennemis lui en fournissent l'occasion par ce jugement contre lui. La malice tourmente les Juifs. Ils cherchent l'occasion de lui nuire. Dans tout l'Évangile, on voit cela dans la vie publique de Jésus-Christ, on voit à plusieurs reprises que les scribes, les pharisiens, sont présents pour des miracles que Jésus-Christ va opérer ou pour des paroles qu'il prononce, non pas pour écouter et se convertir. C'est là le drame de ces Juifs perfides. La perfidie, c'est par rapport à la foi. Ils n'ont pas la foi, ils ne veulent pas avoir la foi. Et c'est pour piéger notre Seigneur Jésus-Christ, mettre en défaut. Donc, dans l'évangile, il y a toujours ceux qui boivent la parole du bon Dieu et qui la gardent, comme dit Jésus-Christ. Ce serait une béatitude. Bienheureux ceux qui observent la parole de Dieu, qui la conservent en eux-mêmes. Et aussi, il y a ces perfides juifs qui viennent pour épier notre Seigneur Jésus-Christ en défaut. Parfois, c'est le sabbat que Jésus-Christ opère des miracles. Mais pas aujourd'hui. Ce n'est pas un sabbat. Mais il va remettre les péchés. Il va remettre les péchés. En Saint Jean, justement, notre Seigneur Jésus-Christ fait des miracles. Et les Juifs lui disent bien, ce n'est pas à cause de tes bonnes œuvres que nous voulons te lapider, mais à cause de ton blasphème. Car tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Voilà le point central. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, il est repris le même mot, cet homme blasphème. Il a remis les péchés. Il n'y a que Dieu qui peut remettre les péchés. Et en Saint Jean, chapitre 10, c'est pas pour tes œuvres qu'on veut te lapider. Et c'est parce que tu te fais l'égal de Dieu. Et ça, c'est irrecevable. Et notre Seigneur Jésus-Christ répondra en Saint Jean. C'est le verset un peu plus loin. C'était chapitre 10, verset 33. Et au verset 37, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne le croyez pas. Mais si je l'ai fait, croyez du moins à mes œuvres, si vous ne voulez pas croire à mes paroles. D'accord, très bien. Ne croyez pas à mes œuvres. Mais non, pas mes paroles, mais croyez mes œuvres. Une œuvre, c'est irréfutable. Et dans cet évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ va laisser pantois, on peut dire, les scribes, alors que les foules vont admirer la puissance que Jésus-Christ a opérée en guérissant ce paralytique. Dans cette guérison du paralytique, dit Saint Jean Chrysostome, je découvre un autre témoignage, que Jésus soit Dieu, de son égalité avec son Père, témoignage non moins fort que le prodige lui-même. En effet, d'après les docteurs, Dieu seul a le droit de remettre les péchés. Or Jésus-Christ faisait plus que remettre les péchés. Il pénétrait les plus secrètes pensées des Juifs. Or, lire dans le fond des cœurs est le privilège de la divinité. Dans l'Évangile, en effet, les ennemis de Jésus-Christ ne déclarèrent point verbalement qu'il blasphémait. Ils le pensaient seulement. Et Jésus-Christ démêla cette pensée de leur cœur. Voici le texte. Et quelques-uns des pharisiens dirent entre eux, « Celui-ci blasphème. » Jésus, sachant leur pensée, dit, « Pourquoi pensez-vous le mal dans votre cœur ?» Il dénonce ce mal qui ronge leur cœur. « Pourquoi pensez-vous le mal ?» Voilà la bienveillance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme voit le visage et Dieu voit le cœur, est-il dit dans le livre des Rois, comme c'est bien vrai. Pourquoi pensez-vous le mal dans votre cœur? Personne, en effet, n'avait plus lieu de s'indigner que le paralytique lui-même. Lui seul pouvait dire, je suis trompé. Je suis venu à vous, Seigneur, pour être guéri de mes membres, dans mes membres, et vous me parlez de celle de l'âme. Après tout, c'est le paralytique qui est concerné, et pas les scribes, les pharisiens. Le paralytique, il se laisse faire. C'était un pécheur. Et Jésus le purifie. Il n'est pas venu pour être purifié dans son âme, au départ. C'est pour son corps. Mais Jésus a vu la foi de cet homme. L'audace aussi. L'audace, c'est l'espérance. On espère quelque chose de bien supérieur. Il ne s'est pas contenté que Jésus vienne chez lui. Il est venu à Jésus. Ça, c'est une grande démarche. On vient à Jésus pour être guéri. Lui, au départ, c'était que le corps. Mais Jésus fait d'abord l'âme. Parce que Jésus voulait d'abord guérir nos âmes avant les corps. L'âme est plus que le corps. Jésus veut dire sauveur, il vient sauver nos âmes. notre Seigneur ne dit pas « Je vous pardonne vos péchés, mais vos péchés sont remis. » Les ennemis, au contraire, le pressent de rendre lui de lui-même un témoignage sans équivoque. Jésus-Christ le fera. En quels termes ? Écoutons. « Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de remettre les péchés, levez-vous, emportez votre lit et partez. » Et le paralytique obéit. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'égal de son Père. Il agit de sa propre autorité. Il est Dieu. Il est Dieu. Ce n'est point par faste, enflure, vaine jactance que je fais cette déclaration, mais uniquement pour établir à vos yeux cette vérité, que je ne suis point blasphémateur, parce que je me place en tout au même niveau que Dieu mon Père. La conclusion de ce grand miracle, de ces miracles, deux miracles, d'abord pour son cœur, son âme, et ensuite pour son corps, Saint Jean-Chrysostome nous la donne. Concluons de la guérison instantanée du paralytique à la certitude de la rémission des péchés. Que cet homme paralysé ait été guéri, je n'en veux point d'autre preuve que son propre lit qu'il charge sur ses épaules. Le commandement que lui en fait Jésus-Christ avait pour but d'ôter à ses adversaires étonnés tout prétexte d'illusion, d'apparition fantastique. Parce que les péchés, c'est interne. On ne voit pas qu'une âme est pardonnée. Et comme preuve de ce pardon, allez, lève-toi, prends ton lit et va-t'en chez toi. Une guérison instantanée et puis une force. Il n'y a pas de convalescence. Quand nous sommes malades, quand nous avons été opérés de quoi que ce soit, eh bien les médecins nous prescrivent une convalescence. Ce n'est pas le cas. La guérison lui rend la faculté de tous ses membres, la force physique. Prendre un grabat, ce n'est pas rien quand même. Et Jésus-Christ n'a pas dit « Fais-toi aider !» Non, prends ton grabat tout seul. C'est extraordinaire. Notre Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir sur l'âme et sur le corps. Et comme preuve qu'il a pouvoir sur l'âme, c'est le corps visible qui a été bien guéri. Donc l'âme était bien guérie également. Il a été rendu dans toutes ses facultés spirituelles. La foi, l'espérance, la charité, tous les dons du Saint-Esprit. Jésus les lui a rendus de façon plénière, certainement. Et donc cette phrase du début que j'ai dite, c'est celle de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, le cousin de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ était venu pour guérir les âmes. Voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ manifeste dans ce grand miracle cette capacité qu'il a de lui-même de pardonner les péchés. Aimons le sacrement de pénitence, bien chers frères. Notre Seigneur Jésus-Christ donnera ce pouvoir à ses apôtres, le soir de la résurrection, de pardonner les péchés. Quelle miséricorde! C'est un miracle à chaque fois qu'une âme pécheresse, en se confessant, se convertisse et vive. Comme disait bien Dieu dans l'Ancien Testament, avant la confession elle-même, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Donc il marche. Qu'il marche dans les voies de la vertu pour arriver à la perfection de la sainteté. C'est là le but de toute notre vie chrétienne, bien chers frères. Jésus-Christ, je termine par cela, cette guérison, donc dit Saint Jean Chrysostome, guérison d'une double paralysie qui établit cette vérité, que Jésus-Christ est aussi bien le créateur de l'âme qu'il est le créateur de notre corps. Et en même temps, confirmation authentique de l'existence de notre âme, quoique invisible, par la guérison des maladies du corps qui l'enveloppe. Notre âme est invisible, mais elle est bien là. C'est le principe de toute notre vie. Bien, chers frères, soignons notre âme. Soignons notre âme. C'est tellement important. Je termine aussi par là, c'est pas du tout Saint Jean Chrysostome, et j'arrive au 21e siècle avec cette encyclique ou quasi-encyclique de Léon XIV sortie tout dernièrement. on parle de beaucoup, il parle de beaucoup de choses, mais l'âme, la conversion des âmes, il n'en parle pas. Il parle des pauvres, de l'aumône, mais pourquoi ? Pas au nom de Dieu, pas dans un principe de charité, on ne parle pas de conversion des âmes. On parle plutôt de la conversion des hommes pour conserver la planète, la mère Terre. C'est l'inversion de l'évangile. C'est terrible. C'est terrible. Donc nous ne serons pas béats devant de telles paroles, mais plutôt bien affligés de voir que les autorités les plus hautes dans l'Église, eh bien, détournent la prédication de ce qu'elle devrait être, la foi, la guérison des cœurs, des âmes, la charité reliée à notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas une espèce de philanthropie qui est terre à terre, horizontale. Horizontale. C'est un discours qui est trompeur et qui ne convertit pas les âmes. Quel désastre de nos pauvres temps. Donc faisons de cet évangile notre amour, Yachafer, un désir profond d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est et qui convertit les âmes. Il est venu pour sauver les âmes de la perdition. Vous voyez, il a sauvé ce paralytique de ses péchés, et aussi, comme bienveillance, comme manifestation pleine de miséricorde, il a pratiqué cette charité à ce pauvre homme qui ne pouvait pas se déplacer par lui-même. Nous sommes ces paralytiques. Si extérieurement nous pouvons nous déplacer parce que nous avons des jambes et tous nos membres, mais notre âme peut être paralysée par ce mal intérieur, le péché qui ronge les âmes et dont on ne parle plus de nos jours, hélas. Demandons à Notre-Dame des Victoires que nous avons honorées dans la fête du Rosaire au 7 octobre, Notre-Dame des Victoires. Notre-Dame ne veut pas le péché, Notre-Dame veut la conversion des âmes, encore une fois, pour qu'elles vivent selon notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.